grande voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrère, ou un contrat mirifique, 17 milliards d'euros pour la défense française. La France vend 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis, 80 Rafales et 12 hélicoptères Caracal. Contrat historique, dit la ministre Florence Parly. Et pourtant, les ONG sont vent debout. La France nous fait honte, clame Yannick Jadot, candidat des Verts. Elle arme des régimes autoritaires qui méprisent les droits humains et dont la richesse s'est bâtie sur les énergies fossiles. Pas le seul Yannick Jadot à lancer des pavés dans la mare. Au centre des négociations, Emmanuel Macron et les hommes forts du Golfe, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, et l'héritier saoudien que rencontre Emmanuel Macron aujourd'hui, entaché avec l'affaire Khashoggi, MBS, le journaliste sauvagement assassiné en 2018. Quelle position pour Emmanuel Macron qui s'est borné à dire « je ne cautionne rien, je n'oublie pas », mais comment faire sans dialoguer avec l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est faisable,
hein? Écoutez, moi je vais... Vous savez que je suis relativement économe de mes approbations du président de la République. Dans cette affaire, je dis bravo, monsieur le président de la République. Il s'agit d'un contrat qui a été négocié par plusieurs ministres et présidents depuis une douzaine d'années.
Mmh, c'est ça.
Et c'est un contrat, effectivement, qui est excellent pour nos ouvriers. Dassault Aviation, c'est des usines... Il y en a 7 ou 8 en France. Il y a 400 sous-traitants, des gros sous-traitants et des petits. Tout ça, c'est de l'emploi pour notre pays. Donc, c'est une garantie de charge de travail pour tous ces ouvriers. Et c'est un signe que la France, quand elle est à son meilleur, elle peut vendre ses produits. Elle le fait dans le luxe, mais il n'y a pas que le luxe. Il n'y a pas que les sacs Hermès et les produits de grand luxe. Il y a aussi, parmi les produits, nos avions et nos produits de défense. Et quand je vois tous les porteurs de la moraline, ou de la morale, eux disent la morale, moi je préfère dire la moraline, c'est-à-dire le déguisement de la morale que sont les écolos, quand ils nous font des déclarations du genre « la France nous fait honte », etc. S'ils ont honte de la France, ils ont qu'à aller après tout aussi ailleurs. Parce que franchement, c'est un contrat qui est bon pour la France. Et même le Front National, j'entendais, je crois que c'est sur votre plateau hier, j'entendais un représentant du Front National qui saluait, au nom des intérêts des Français, qui saluait ce contrat. Eh bien, je me félicite que là, il y ait eu un petit penchant d'Union Nationale sur ce contrat.
Moi, je crois qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. De toute façon, rien n'est nouveau là-dedans. Les associations ont toujours protégé, les ONG ont toujours protesté lorsqu'on a signé des contrats de ce genre. Mais il faut bien voir que les contrats de ce genre, c'est aussi l'industrie française, la reprise de la cadence productive. Et c'est vrai qu'après 2 ans de Covid, moi, je suis vraiment plutôt contente que ce deal ait abouti, parce que ça fait 70 000 salariés quand même. Alors moi, je veux bien qu'on se fiche des 70 000 salariés qui sont concernés pendant 10 ans, puisque ça doit durer 10 ans. Mais enfin, quand on est au pouvoir, oui, peut-être qu'on fait attention à ces 70 000 salariés qui autrement seraient quoi ? Ils seraient dans les champs et dans les plateaux du Larzac.
Non, mais est-ce qu'on peut enfin le dire ? Si la France n'y était pas allée, ça serait d'autres, et en particulier les Américains.
Non,
mais,
oui, sûrement,
mais,
bien
non,
sûr.
Mais, attends, mais d'abord, cette vente Maus énorme ne devait pas se réaliser de cette manière. C'est le F-35 américain, le nom de combat américain, qui était à la place en réalité du Rafale. Et ce qu'a décidé le cher Mohamed Ben Zayed, d'abord, c'est un long processus. C'est vrai que c'est Emmanuel Macron qui récupère ce processus, qui a commencé sous Jacques Chirac en 2002, qui s'est poursuivi avec Nicolas Sarkozy, François Hollande aussi, qui a été omniprésent à Abu Dhabi, qui est le plus important des Émirats, des 7 Émirats du Golfe arabo-persique. Et le cher Ben Zayed, en réalité, a subi 2 pressions très importantes, notamment du président des États-Unis.
L'actuel ?
Bien sûr, Joe Biden, qui lui a fait savoir qu'il n'était pas question de continuer la coopération avec les Chinois en ce qui concerne l'équipement justement des vaccins, le vaccin chinois, l'installation de la 5G dans le golfe arabo-persique et bien sûr l'utilisation et l'achat de drones chinois. C'est ce qui est en train de se passer. Et c'est à partir de là que le cher a annulé la commande des F-35 et a choisi la France. Or, ce choix...
Pourquoi ? Parce que Joe Biden lui faisait, entre guillemets, la morale ?
Oui, non, mais parce qu'il faut savoir que dans tous ces pays-là, de toute façon, tous, depuis l'affaire du retrait précipité d'Afghanistan, ont un doute sur la solidarité, l'appui stratégique, le partenaire stratégique que restent quand même les États-Unis, parce qu'il ne faut quand même pas non plus oublier que les États-Unis, c'est central en matière de défense, y compris pour la France, pour tous les pays de l'Europe.
Oui, oui. Ils ont vendu à tout le monde depuis 25 ans, à tous les États. Il se trouve que Biden est un peu embêté, parce que Biden a une majorité qui est un peu plus à gauche que lui. Bon. Il y a un certain nombre de sénateurs qui essayent aujourd'hui de bloquer. Oui. Voilà. Mais c'est une incidente. Oui. C'est parce que Biden a des problèmes avec ses sénateurs, mais ce n'est pas parce que Biden est un homme formidable qui ne serre lui la main
qu'au terminé. Ensuite, les autres voudraient intervenir.
Non, ce qui est important par rapport, en dehors du fait que ça rapporte 17 milliards à l'industrie de défense française, c'est-à-dire le double, plus du double de ce qui a été, si vous voulez, en quelque sorte, le Trafalgar de l'industrie navale française, avec la suppression des 6 sous-marins qui devaient équiper l'Australie.
Oui, et 60 milliards.
Et quel a été l'animateur principal de cette suppression ? C'est Joe Biden et son complice britannique, Boris Johnson.
What we did was clumsy.
Bon, ouais. ce partenariat stratégique, ce qu'il faut bien comprendre, crée de fait une interopérabilité entre la France, ses rafales, Abu Dhabi, bien sûr, l'Égypte, qui a ses rafales aussi, et surtout l'Inde, qui a déjà 36 rafales et qui va en sortir 100 fabriquées à Nagpur sur le territoire indien. Et cette interopérabilité, évidemment, a un objectif, c'est de s'ingérer, d'occuper l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire l'avenir dont on a été exclu avec la suppression de la commande. Et c'est ça qui est important. C'est que ce contrat de 100, d'ailleurs qui va être sectorisé, hein, parce que je ne pense pas que ces 80 rafales vont équiper seulement
Abu Dhabi.
Posez
votre question, oui.
Non, mais il faut l'expliquer.
Oui, ce qu'il y a de sûr, c'est que la présence... Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'intérêt de la France, c'est vraiment d'être présent dans ces pays-là et de garder une neutralité apparente entre les deux mondes. Et donc, pour ça, on ne peut pas à la fois vouloir la réindustrialisation de la France, vouloir sa place dans le monde, et dire, ah ben non, sur ce contrat-là, on cède notre coup, quoi.
Oui, non, mais il faut dire aussi qu'avec le cheikh Ben Zayed, on a des relations depuis très longtemps avec les Émirats. Je veux dire, déjà sous François Léotard, la France avait vendu 450 chars MX aux Émirats. Donc, c'est une longue progression. Nicolas Sarkozy, lui, a installé des 3 bases militaires, donc une grande base aérienne, en espérant qu'on achèterait des rafales. Et donc, il avait négocié longtemps et ça n'avait pas abouti. Alors, il s'est passé beaucoup de choses, mais entre-temps, dans les pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, on s'aperçoit maintenant que les Américains ne sont plus dépendants du pétrole américain. Ils exportent de l'énergie avec leur gaz
du pétrole arabe.
Donc, ils exportent leur gaz de schiste. Ils n'en ont plus besoin. Ils ne feront plus la guerre. Biden a dit maintenant, nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est nos intérêts vitaux. Or, le chèque, le prince héritier, son obsession, c'est l'Iran. C'est tout près de chez lui. Et il a besoin de ses avions pour cet équilibre de la terreur. Parce que avec ces avions-là, pour se protéger. Et il sait aussi que ces avions sont les meilleurs. Alors avant, c'était Obama, ses successeurs qui téléphonaient, et évidemment Trump qui téléphonait en disant surtout acheter américain. Mais maintenant, quelque chose est nouveau. Le rapport avec les États-Unis a complètement changé.
Une pause, Gérard,
vous direz un mot après. Surtout, on comprendra avec Charles Villeneuve pourquoi est-ce que Jacques Chirac a été très important dans ce contrat. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
De retour pour une dernière partie avec Gérard Carreau, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. Gérard, pardon, vous vouliez rajouter un petit mot ?
Oui, je veux dire, le marché des armes est un marché mondial. Quand on est une grande puissance, on vend des armes. C'est vrai, les Américains, on l'a rappelé, les Russes le font, l'Angleterre le fait. Si on ne fait plus ça, nous,
l'Allemagne,
L'Allemagne même et la Chine, y vient. C'est un point de force. Quant au sang sur les mains, écoutez, moi, j'ai vu de mes yeux, puisque j'y étais, j'ai vu Mitterrand serrer la main de Brejnev. J'ai pas reproché à Mitterrand de serrer la main de quelqu'un qui avait noyé dans le sang un certain nombre de révolutions dans les pays de l'Est. Même chose avec le général de Gaulle quand il a serré la main de Staline. Enfin, on ne peut pas construire une politique internationale sur l'idée qu'il faut de la morale, toujours de la morale, et la morale extensive.
J'ajouterai quelque chose à ce propos, justement, pour le dîner de ce soir entre le président français et Mohamed Ben Salman, qui dirige donc au nom de son père l'Arabie Saoudite. En 2030, l'Arabie saoudite sera peuplée de 42 millions d'habitants, dont 70% auront moins de 30 ans. C'est cet avenir-là, si vous voulez, que le président de la République,
et où le pétrole,
quel qu'il soit,
ils seront pour un, il n'y aura plus d'État-providence.
Quel qu'il soit, doit tenir compte de cette évolution et regarder l'avenir. Bien sûr, le présent aussi.
Alors, en plus, il y a une réflexion du président de la République intéressante de ce point de vue. C'est comment pourrions-nous dire que nous aidons le Liban, que nous participons à la stabilité du Golfe, si nous ne parlions pas à l'Arabie saoudite. C'est assez clair et assez vrai. C'est vrai, ne pas parler à l'Arabie saoudite, c'est possible pour, je ne sais pas moi, si Monaco ne parle pas à l'Arabie saoudite, c'est possible, mais nous, c'est difficile.
Voilà, et il fait un cadeau en arrivant. Il a obtenu par négociation la démission d'un ministre libanais qui avait beaucoup critiqué la politique... du Saoudien au Yémen et ailleurs, et pour tout le reste, tout ce qu'on peut lui reprocher. Et donc, le ministre est parti, ce qui va peut-être permettre à l'Arabie saoudite de reprendre les importations des produits agricoles libanais qui avaient arrêté et qui étaient un gros manque à gagner pour le pays.
Vous parliez des rôles successifs des présidents de la République. Tout a commencé par Jacques Chirac, c'est ça ?
Oui, vers 2002, le père de Mohamed Ben, le prince héritier, on rappelle Ben Zayed qui a pris cette décision et cette commande des 80 rafales. Le père, donc, en présence de son fils, de Jacques Chirac et de plusieurs diplomates, dont un avec lequel j'ai dialogué hier, là-dessus, le père a dit à son fils, tu vois cet homme, en désignant Jacques Chirac, écoute-le comme tu as pu écouter ton père, c'est-à-dire moi-même. C'est à partir de là, si vous voulez, que les liens ont commencé à se construire tout à l'heure. Catherine racontait qu'en réalité, c'est une lente progression de présence de la France et Nicolas Sarkozy notamment a installé une base très importante, une base de renseignement. Non, mais l'une des trois bases, il y a la base aérienne où il y avait déjà 10 rafales.
Qui avait servi en Libye.
Voilà, il y a une base de toute façon qui sert c'est l'alerte de recul des forces françaises en Afrique. Et il y a aussi une base secrète ou semi-secrète qui observe en permanence tous les mouvements des navires et des frégates iraniennes qui vont et qui viennent dans le golfe arabo-persique.
Historiquement, l'Arabie était une terre dans laquelle l'Europe, et la France en particulier, exerçait le rôle le plus grand pendant des années, pendant des siècles même. Donc il est absolument impossible pour n'importe quel président français ou n'importe quel gouvernement français, de dire, voilà, nous n'aurons plus aucune prise sur ce que se passe, sur ce qui se passe entre l'Irak et l'Iran, sur ce qui se passe entre la Libye et l'Arabie saoudite. C'est impossible, c'est une zone d'influence traditionnellement française.
C'est une zone intermédiaire par rapport à l'Indo-Pacifique, ce qu'on appelle, qui est la zone d'avenir. Il est bien évident que la France ne peut pas reculer sur ce plan.
Et qu'on a perdu.
Il ne faut pas oublier la zone d'influence dont tu parles, Catherine. C'était aussi celle des Anglais.
Elle, c'est Michel. Merci, les amis. Merci, Charles Villeneuve. Merci, Gérard Carrou, Michel Cotta et Catherine Ney. Et bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour, Pierre, et bonjour, les grandes voix.
Bonjour.
Nous allons passer à la casserole nos traditions en cuisine, entre les astuces et les tours de main. Les traditions ont-elles toujours raison ? On se pose la question et on partagera le plat du jour avec l'auteur-réalisateur Riyad Satouf. A tout de suite.
A tout de suite, merci Laurent.